FM, oh Jet FM, ne me mens pas et donne-moi la bonne fréquence. La barge russe avec Johnny Tibet tous les jours. The Russian fortune avec le capitaine Helmut Trotz. My girl, black girl, where will you go? I'm going where the cold will blow. It's Jet FM, où vas-tu? À quelle vas-tu revenir?
Page russe 1029. Éclipse en reflet. Me voilà très préoccupé par l'extrême droite. Nous sommes le 13 juin, jour de l'enregistrement, aujourd'hui. Bardella vient d'amasser, a amassé 33% aux européennes. J'imagine Le Pen sans modération qui petit à petit gagne des sièges, s'installe. Les législatives à venir montreront l'état du pays, grosso modo. Lamentable pour certains et victorieux pour d'autres. Niké en grec est victoire, mais ici les Air Jordan n'ont rien à voir. Je suis préoccupé quant à la liberté d'expression, à la peur qui va déshériter les plus pauvres. La haine agit. Et maintenant, on va écouter Alive in the Burning Blues par Janis Joplin. À présent, dans l'essai Éclipse de Dieu de Martin Buber, il est question de Spinoza. Spinoza, il écrit « Il y a des hommes qui aiment Dieu ». Reprend Buber en parlant de Spinoza. « Il est indifférent qu'il y en ait beaucoup ou peu des gens qui aiment Dieu. Lui, Spinoza, le savait, en tout cas par sa propre expérience. Il comprend cet amour de Dieu comme l'amour de Dieu envers lui-même. Amour qui s'actualise à travers sa création et qui inclut au même titre l'amour des hommes pour lui et son amour pour les hommes. Ainsi, Dieu, ce Dieu pour lequel la nature et l'esprit ne sont que deux de ses innombrables attributs, aime d'un amour qui doit être à l'image d'une autre puisqu'il se manifeste en lui. L'anti-anthropomorphisme le plus radical débouche donc sur une anthropomorphie sublime. Là encore, nous parvenons au seuil de la reconnaissance de notre rencontre avec la réalité de Dieu. Cette rencontre est véridique, car elle se produit dans la perception de l'identité de son amour avec le nôtre. Unum et idem. Nous qui sommes des êtres finis de la nature et de l'esprit, et qui ne sommes pas du tout identiques à lui Dieu, qui est l'infini. Et là, ce qui m'a vraiment plu dans ce bout de texte, c'est cette haine, en fait, qu'il dit par l'anti-anthropomorphisme, le plus radical, débouche sur l'anthropomorphie sublime. La haine débouche sur l'amour. On pourrait, pas caricaturalement, mais mettre d'autres mots avec ça, par exemple. Et aussi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que c'est Dieu, Spinoza le prenait, comme lui, Spinoza, l'amour qu'il donnait autour de lui, il recevait le même amour de Dieu. Donc là, faut traduire, si on ne parle pas de Dieu, si autour de toi tu es aimant, si tu aimes les gens, tu les fais rire, tu les mets à l'aise, tout ça, sans avoir d'idée derrière la tête, bien sûr, tu vas être bien. Et tout va normalement pas trop mal se passer pour toi dans la vie. Tandis que si... Et donc là, vu que tu aimes beaucoup autour de toi, et bah, la force transcendantale, celui qu'on appelle, qui peut s'appeler Dieu, ou le bien-être, va être très très fort si tu donnes beaucoup de bien autour de toi. Et à contrario, si tu donnes beaucoup de haine, si on... Je sais que c'est pas évident dans tous les cas de figure, donc je parle dans mon cas de figure. Mais je suis conscient, bien sûr, qu'il y en a, c'est pas facile du tout de faire ce que je dis, quoi. Donc, voilà. Bon, c'est juste des pensées. C'est réel, ce que je dis, mais c'est pas forcément facile pour tout le monde, quoi. Et il y a un autre moment plus loin dans le texte, il est écrit « L'unité de Dieu n'est pas le bien, mais ce qui est au-dessus du bien. » Quand, en réalité, c'est pas forcément parce que c'est bien que c'est la force transcendantale, parce que la force transcendantale, elle est au-dessus. C'est elle qui t'oriente à faire une chose qui peut t'apporter que du bien, quoi. Voilà, c'est mon interprétation, hein. Je le redis. Ouais, je le redis, encore. Non. Très bien, je lui ai dit, bah, très très bien. D'ailleurs, Nietzsche, vous savez, Nietzsche, Dieu est mort. Mais ça ne s'arrête pas là. J'avais lu ce livre, Éclipse de Dieu de Martin Buber. Je l'avais lu, oui. Et il est question de Nietzsche. Oui, en effet, oui. Oui, je sais bien. Oui. Qui est remis en cause cette Dieu est mort, et qui a une signification, qui n'est pas Dieu est mort, les gens ne croient plus en Dieu. Oui, certes, mais. Nietzsche écrit ça, en prenant un peu Hegel, mais j'ai repris le livre, je vais vous lire ce que j'avais pu... Donc, si j'ai supprimé Dieu, Dieu le Père, dit exactement Sartre, il faut bien que quelqu'un invente les valeurs. La vie, n'est-ce pas, n'a pas de sens a priori. C'est ton affaire de lui en donner un sens à cette vie, à ta vie. Et le monde n'est rien d'autre que celui, n'est rien d'autre, pardon, que ce sens choisi par toi. Voilà, donc là nous avons l'amalgame des positions, l'amalgame des jeux, l'éphémère, l'orientation. Apprends selon le pincement au cœur. Selon, voilà. Il reprend quasiment un propos de Nietzsche, Sartre. Cela ne le rend pas pour autant plus crédible, n'est-ce pas ? Nous pouvons accepter et croire en un sens ou en une valeur qui peuvent éclairer, n'est-ce pas, et révéler la vie individuelle. Voilà, exactement. Mais ce sens doit être rencontré et non inventé. Les rencontres, les accès. L'accès va pouvoir se projeter si ce n'est pas si c'est il y a une succession de bons choix qui ont été pris pour être pour avoir le bien autour de nous, pour donner le bien bien à l'opposé de ce qu'on appelle la haine, avec la haine qui n'est même pas existante dans ce cas de figure. Enfin, je vais continuer. Il semble évident pour Heidegger que l'intention de Nietzsche ne se limitait pas à en vouloir en finir avec Dieu, mais qu'il s'attaquait à l'absolu dans toutes ses formes. Voilà, c'est ça, Nietzsche. Il s'attaquait à l'absolu dans toutes ses formes. Dieu est mort, je m'attaque à l'absolu. Mais qu'il s'attaquait à l'absolu dans toutes ses formes. Il ne s'agissait donc pas seulement de rompre avec la religion, mais aussi avec la métaphysique. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce point. Non, la métaphysique étant... on ne peut pas rompre avec la métaphysique. Oui, cette métaphysique qui est très, très, très présente dans la Bible, par exemple. Mais la métaphysique biblique, plutôt. Ok, d'accord. Acceptons ceci, rompre avec les religions, mais aussi avec la métaphysique, qu'il n'y ait plus de relativité, mais au contraire, un point, ou plutôt un côté, invisible. En disant que Dieu est mort, on pourrait penser que le côté invisible n'existe plus. Or, non. Si on lit bien, très bien Nietzsche, si on lit Nietzsche, qu'on essaie de le comprendre, on peut voir la clairvoyance de Nietzsche. On peut voir qu'il allait au-delà. Donc c'est juste, en fait. J'ai parlé un peu trop vite. Oui, exactement. Le terme relatif est adéquat à la métaphysique ici. Très bien. Maintenant, si on revient à Henri Corbin, en islam iranien, le tome 2, Sohrawardi et les platoniciens de Perse, donc Perse qui était l'Iran avant, aspects spirituels et philosophiques. Je vous ai déjà dit, j'en ai trois, les volumes 2, 3, 4, et c'est incroyable. Ça me retourne vraiment. Les aspects spirituels et philosophiques de l'islam iranien par Corbin, c'est écrit, mais c'est. Il n'y a aucun mot. Donc, dans le chapitre Lumière de gloire masdéenne et angélologie. Comment le myste, celui qui aspire selon le cœur de Sohrawardi, à la fois à la connaissance philosophique et à l'expérience mystique, sera-t-il conduit au terme de ses désirs ? Sohrawardi lui apprend ce qu'est la connaissance orientale. Il lui indique où est la source orientale. Mais comment tout cela deviendra-t-il pour lui l'événement ? Son événement. C'est que Sohrawardi décrira justement au cours d'histoires symboliques énonçant les grands thèmes de l'épopée mystique. Leur scénographie, les dramatis personae, présupposeront qu'il ait initié son adepte à la hiérarchie de l'être, aux hiérarchies des êtres de lumière. Donc ça, c'est plutôt spirituel. Et plus loin. Souvent aussi, nous traduisons par lumière archangélique parce que les lumières orientent, procédant immédiatement de l'orient des lumières, sont littéralement les archanges. Et que dans le mot archange, l'élément arché connote à la fois l'idée de commencement et principe et l'idée de commandement et suprématie. En outre, ce que peut éveiller le terme d'archangélisme complète encore une image mentale conforme à l'éthique chevaleresque que développe aux différents plans de l'être l'angéologie zoroastrienne. Car il y avait aussi là-bas le Saint Graal et le 12e imam, les douze apôtres, les 12 chevaliers de la table ronde. On peut penser que c'est relié tout ça. D'ailleurs, il le dit, Corbin. Il y a le combat des puissances de lumière soutenant Ormaz, qui est sagesse-lumière. Il y a le combat des Fravartis, entité céleste, archétype de chaque créature de lumière, littéralement, celles qui ont choisi de descendre en ce monde matériel pour y combattre les contre-puissances. Oh, Arimayen, c'est pas trop important. D'ailleurs, un chapitre, la lumière de gloire et le Saint Graal.
Caught you unaware, but I'm telling you, hold on.
C'était After the Fall par Klaus Naumi. Et il est question de cette unité platonicienne qui, dans ce cas, c'est Bergerus, unit le côté invisible, Nietzsche, son Zarathoustra, avec la lumière de la caverne sans ombre. Et ce mythe de la caverne de Platon qui dit des personnes, ou des prisonniers, ou des personnes. Donc là, on va dire que toutes ces personnes-là, c'est la société. Dans la caverne. Et on est tous enchaînés dans cette caverne et on voit pas. On voit la vérité, on voit les choses, mais qu'avec des ombres, des fois, qui peuvent arriver par une. Qui peuvent être visibles, mais sans lumière, c'est difficile, mais parfois on arrive à voir. Ils arrivent à voir ça. Et si tu arrives à te défaire de tes liens, tu vas dehors, et alors. C'est la première fois que tu vois la lumière, donc t'es aveuglé. Puis tu t'y fais un petit peu, et puis alors là, tu vois qu'en fait, la lumière, c'est tellement. Ça t'enlève ton mal de tête ou quoi que ce soit. C'est. Oh, wow. Et tu retournes sur tes pas, tu vas le dire au mec pour les détacher, et il te croit pas. Il dit, mais non, c'est pas possible que ce soit comme ça, tu rêves. Et la société, c'est comme ça un petit peu. Il y en a qui s'en vont, je sais plus comment il appelle ces gens-là, Corbin, ces personnes, un chevalier quoi. Il y va, il revient, il porte la bonne nouvelle et personne ne veut le croire. Ils s'en foutent les gens et ils le tuent même, tu vois. Ils se demandent à la fin de chez Platon ça, ils se demandent s'il va mourir ou pas quoi, tellement... Tu peux pas apporter la bonne nouvelle, une bonne nouvelle à une vérité qui est en fait une illusion qui est ancrée, une illusion qui est construite sur des ombres en fait, tu vois. Je trouve que ce mythe aujourd'hui qui date d'avant Jésus-Christ, il est vrai, il est bien. Et c'est Socrate qui le dit. Socrate, Platon était l'élève de Socrate. C'est Socrate qui lance ce sujet, quoi. Et donc, dans ce cas, le côté invisible, Nietzsche, son Zarathoustra, mais ça, c'est des exemples, c'est le détail pas important du tout. Et la lumière de la caverne sans ombre, de la caverne qui, malgré tout, est minuscule, qui est donc celle de la réalité, parce que si on s'en va de la réalité, bon, on est obligé d'y rester dans la réalité, mais si on va au-delà des choses apparentes, la raison du soleil, des lumières, du côté invisible, éclaire le cheminement de l'être, de nous en fait, tu vois, vers demain, vers la poésie dont on n'a plus vraiment besoin. Parce qu'on est déjà si haut dans l'éther que, tu vois, on n'a plus besoin. J'ai reçu une lettre là, d'un mec qui méditait des poésies verso. Et il dit, voilà, on a édité des poèmes à toi là-dedans. Est-ce que tu veux continuer avec nous? Donc ça sous-entendait, parce que ils ont besoin de sous, tu vois, pour payer les feuilles, le travail aussi que doit faire le mec. Une lettre et je lui dis mais maintenant moi, j'ai pu je lui ai envoyé un peu d'argent mais pas tout ce qu'il demandait quoi, enfin pas il demandait rien mais... Et c'est marrant parce que il a édité justement une poésie qui reflète inconsciemment j'avais écrit ça sans parce qu'il fallait que je l'écrive sans forcément savoir ce que ça voulait dire. Et là, je m'aperçois que ça reprend exactement ce que je suis en train de vous dire dans la Bergerus, quoi. Des mots du crépuscule aux pensées de l'aube s'étirent les phrases borgnes et les rêves éculés. En amont, des vers éludés tournoient les rimes des infinis célestes aux ponts inachevés. Le crayon ombilique se vide et l'encre gît. Depuis sa gueule, son double des limbes, aveugle, ne pouvant plus lire son esprit. Pourtant, épris de paroles neuves, transi. Dans sa gorge, une capsule est coincée. C'est la nuit, peut-être une étoile, ou le recto de son envie, le ressenti. Une semence, le poème est parti. À quel pourcentage les limbes obtiennent les denrées, que le faucon soit chargé, abreuvé, seul et boulimique. Cette poésie qui est partie, la reverrai-je? L'encre est restée sur les doigts qu'elle a sucés, qu'elle a contrôlés, déconditionnés, puis consumés. Comme les plumes fumantes, alors trop proches du soleil. Ses mains ont serré les phrases, étranglé les sens, ont étouffé leurs sons. Elles sont froides, brillent. Lueur et phalange secouent l'apogée pour la sueur de la vague. Ainsi va du ciel au mot. Et ça reprend un petit peu cette idée dont je viens de vous dire, quoi. Que si haut dans les terres, la poésie, elle est partie, quoi. T'as plus le besoin d'écrire.
La poésie est partout, tu veux dire?
Oui, elle est partout, mais la poésie dans la réalité est tellement omnisciente, tu vois. Oui, t'as raison, elle est tellement partout qu'elle n'est pas là, quoi. Tu vois? Le truc qui est connu, c'est on écrit quand on n'est pas bien. Ou quand on a... Tu vois, moi j'avais écrit, j'étais pas forcément mal, mais je sentais que j'avais quelque chose à écrire. Voilà, alors après lecture du Monde du 13 juin 2024, il me semble que la presse et la politique soient en deçà des émotions réelles qu'elles veulent transmettre. Donc je rappelle, on est le 13 juin, cette émission va être diffusée fin juillet, je parle des élections européennes, je le rappelle. La coordination des peurs, des volontés, des craintes, des espérances ne se joue pas dans la politique démocratique de la partie occidentale. Et c'est pour ça que je vous disais, il me semble que la presse et la politique soient en deçà des émotions réelles qu'elles veulent transmettre. Et je rajoute que les peurs, les volontés, les craintes, les espérances ne se jouent pas dans la politique démocratique de la partie occidentale, malgré les peurs ravivées, conservées, malgré les volontés d'un pluralisme caché qui est en chacun de nous, qui ne veut que sortir de l'éducation, du clonage unidimensionnel de la réalité, malgré les craintes de retrouver le conservatorisme suranné d'une explosion du temps, malgré les espérances d'une eschatologie harmonieuse et chaotique, le cycle de la peur établit des tableaux avec deux cases, vivants et morts. Les noms défilent à l'intérieur. Le cycle se produit dans l'illusion. Ce cycle se produit dans l'illusion d'une bande droite jusqu'à une fin. Alors que nous sommes, chacun de nous, dans un cycle infini.
Marion m'a dit Johnny fais la coupe et les cheveux, je lui ai dit mamie, je n'en ai déjà presque plus. Avec lui elle qui a 20 ans de plus, on se dit qu'avec un de moins ça fait toujours un plus. Oh yeah. En tout cas on fait de la radio, depuis que le surf me fait très mal au dos. On chante et on anime des chroniques qu'on joue pour comprendre toute la musique autour de nous. La séquence du spectacle pour l'auditeur, faut mettre ses fréquences par ordinateur. Plus besoin de se suicider, on est déjà tous morts à en crever. Oh yeah. Tout devrait pourrait changer tout le temps, nous serait bien plus amusant. On avance à l'envers, on recule en marche arrière. J'étais fait mais loin devant, la vague russe avance au vent. Même si on se pose des questions, le monde tourne tout.